Bon.
En direct.
Oh, de quoi?
Avec JC et Patricia.
Radio X.
À 13h50 minutes. Max, il y a quelqu'un qui appelle sur la hotline.
Oui,
merci. Donc, évidemment, c'est un lundi un peu troublant avec ce qui se passe présentement à Montréal. Une fusillade qui, visiblement, était préparée puisque le tireur qui a été abattu était équipé de façon quasi militaire, là, avec fusil de précision, trépied, des ceintures de munitions et tout le kit. Un policier abattu. Selon les infos que j'ai vues passer, et tout dépend du média que vous regardez, il y aurait un autre blessé dans le corps policier et peut-être une citoyenne également qui aurait été blessée dans cette fusillade-là.
On parle d'une policière grièvement blessée, ça vient de sortir.
Également, exactement. Et on a vu des vidéos qui circulent présentement sur cette fusillade-là. Un, c'est pas chic. Donc, sachez-le, si vous jamais vous tombez là-dessus, là, puis que vous n'avez pas envie de voir de choses graphiques, c'est peut-être pas la chose à regarder aujourd'hui. Et deuxièmement, on se demande s'il y a encore un tireur. En tout cas, aux dernières nouvelles, on se posait la question à savoir s'il y avait un autre tireur. Donc, c'est carrément une gestion de crise. Là, Côte des Neiges, le quartier qui est sensiblement fermé. Les gens sont barricadés à l'intérieur. Roger Ferland, 4h25 en onde dans le retour. Et tantôt, on aura André Gélina également, ancien policier à la retraite, qui va venir aborder ce sujet-là. Puis peut-être qu'avec notre prochain invité, on peut peut-être aussi en glisser un mot. Il est député du Parti libéral du Québec dans Nelligan. Vous savez que la semaine dernière, on a parlé avec Éric Duhaime. On a également reçu Pascal Paradis du PQ. Moi, j'aime ça. Des petits bilans, faire le tour. Donc, ouais. Quelqu'un du Parti libéral, pourquoi pas? Monsef Déragi, au bout du fil, M. Déragi, bonjour.
Oui, bonjour à vous deux. Merci de m'avoir donné cette opportunité.
Ben plaisir. Partagé, mais de notre côté, on ne savait pas qu'on allait tomber en situation de crise comme ça. Vous avez certainement vu ça passer. Vous êtes quelqu'un qui est au fait de l'actualité. Avez-vous des commentaires
ouais.
là-dessus?
Bah, premièrement, je pense que le service de police vient de confirmer le décès.
Ouais.
Donc, premièrement, mes sincères condoléances à la famille du policier en question. On ne sait pas c'est qui, le nom de la personne, mais c'est terrible comme nouvelle. Moi, je me dirige maintenant au centre-ville. J'ai changé l'itinéraire parce que tout est bloqué sur la route des Carrés. Donc, moi, mes premiers mots vont aller à la famille du policier en question et... c'est terrible, une nouvelle pareille. Tu sors pour travailler, pour assurer la sécurité des citoyens et tu perds la vie de cette façon. C'est terrible pour sa famille, j'en suis sûr et certain. On ne sait pas s'il a commencé tôt le matin ou s'il était en service depuis la veille. Mais je tiens vraiment à offrir mes sincères condoléances à sa famille. On verra la suite des choses avec l'enquête et les informations qui circulent. Au moment où on se parle, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'informations, sauf que la route des Carrés, elle est complètement fermée à la circulation.
Bien, évidemment, on n'a pas tous les détails, donc effectivement, c'est judicieux. On en saura plus c'est très certainement au cours de la journée. Ouais. C'est évident. Maintenant, petit bilan politique, c'est la fin de la session parlementaire. En fait, ça s'est terminé la semaine dernière. Si vous aviez... Un mot, une phrase à dire pour, disons, résumer la dernière session parlementaire, ce serait quoi?
Pour nous, pour le Parti libéral ou pour la CAQ?
Pour vous? Ben, pour ce que vous avez vécu lors de la dernière session. Là.
Ben, je pense le mot rigueur. Je vais vous dire pourquoi. Parce que durant l'exercice des crédits, les gens qui nous écoutent, ils ont élu un gouvernement qui est la CAQ. Et je tiens à le rappeler, c'était un gouvernement très majoritaire. Souvenez-vous de 2022,
oui.
Où tout le monde disait que M. Legault ne l'a pas eu facile avec la pandémie. Ben, on va lui donner une forte majorité. C'est là où on était. Donc, nous, les gens, ils nous ont dit, écoutez, restez à l'opposition officielle, mais faites votre travail. Et c'est ce qu'on a fait, parce que la dernière session parlementaire a été, je dirais, une session... où nous avons démontré les lacunes du gouvernement. C'est ça notre rôle. L'opposition officielle, c'est démontrer les lacunes du gouvernement en matière de gestion des finances publiques, en matière de gestion de l'État, et aussi talonner le gouvernement sur les missions essentielles de l'État et proposer des changements ou des modifications. Donc, le mot qui me vient en tête maintenant, c'est la rigueur de l'équipe libérale. Dans plusieurs dossiers, si vous avez suivi certainement l'actualité, nous étions prêts au niveau de l'exercice des crédits à talonner le gouvernement qui essaye de dire que c'est un nouveau gouvernement. Mais pour moi, c'est le même gouvernement, c'est la même chose, c'est la coalition Avenir Québec.
Mais dans l'opposition, puis je remets certainement pas votre travail, puis je sais que vous êtes vous-même quelqu'un de très travaillant, puis je vous ai encensé à ce niveau-là assez régulièrement en chambre et justement dans l'étude des crédits, vous êtes quelqu'un de très efficace. Mais au bout de la ligne, et c'est un peu le cynique en moi qui parle, on sait qu'au Québec, un gouvernement majoritaire fait sensiblement ce qu'il veut, et c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à la fin. D'ailleurs, à la fin, j'ai senti un petit relâchement, c'est-à-dire qu'ils se sentaient avoir des gens qui voulaient s'opposer à certains trucs. Et là, pour finir la session, on dirait que ça s'est terminé main dans la main, tout le monde ensemble pour voter ce que la CAQ avait envie de voter, non?
Ben, ce n'est pas vrai. Écoutez, parfois, on vote pas avec la CAQ. On vote parce qu'on croit que c'est la bonne chose à faire. Mais là où je ne partage pas votre conclusion, c'est que nous étions très présents par rapport à l'état des finances publiques. Nous étions très présents par rapport à la transformation numérique où le gouvernement caquiste a signé une entente avec une entreprise américaine qui nous coûte les yeux de la tête. Nous étions dans des dossiers qui touchent l'éducation, la santé, l'accès à la première ligne. Moi-même, j'ai dénoncé la médecine fast-food où le gouvernement, avec votre argent, a signé une entente avec les médecins généralistes pour acheter des rendez-vous et non pas pour leur offrir une prise en charge. Donc, oui, il y a des choses où je ne peux pas dire qu'on collabore avec le gouvernement, on joue notre rôle, mais il y a des choses où le grand bon sens nous pousse à être du bon côté. Mais ça, ça n'empêche pas qu'il y a des éléments où nous n'étions pas d'accord avec le gouvernement, notamment par rapport à l'état des finances publiques, par rapport aux dépenses gouvernementales, que ce soit utiliser la carte de crédit des Québécois pour payer des choses qu'on dénonce, l'état des infrastructures, le fait que le gouvernement cachait de l'information par rapport à l'infrastructure, la présence des mégawatts. Et les gens, ils pensent que c'est un débat très élitiste, mais ce n'est pas le cas.
Ben non.
Les mégawatts, c'est ce qu'on a de plus précieux. En fait, c'est le pétrole québécois, les mégawatts. Et c'est comme ça qu'on essaye de convaincre les entreprises à venir s'installer au Québec et à créer la richesse. Mais je vous allez me dire, monsieur le député, pourquoi vous parlez de la création de la richesse? Ben, si on ne crée pas la richesse, on ne va pas pouvoir avoir des services gratuits. Et je sais qu'on aime ça au Québec, tout gratis, mais il n'y a pas de gratuité qui vient comme ça. Les contribuables québécois payent des taxes, payent des impôts. Et moi, mon rôle, comment je le vois, il y a le gouvernement qui dépense. Ben moi, les Québécois m'ont donné le droit de surveiller les dépenses que le gouvernement fait avec l'argent des contribuables. Et j'essaie de bien faire ça au nom de la population québécoise.
Donc, pour le projet de loi 3 là, sur la carte électorale, vous trouviez que c'était le gros bon sens?
Ben écoutez, je pense que vous allez lancer tout un débat par rapport à la loi électorale. Moi, je suis allé en Gaspésie. Et je vais vous partager une réalité. Dans mon comté, si je veux aller parcourir le comté d'un bout à un autre, probablement ça va me prendre 45 minutes, ça dépend si j'arrête, si je fais un arrêt ou pas. Mais j'ai 80 000, 55 000 citoyens et d'autres qui ne sont pas des citoyens. Et donc, si je veux faire très bien mon travail, je dois être à l'écoute. Hier, j'étais avec des personnes qui ont subi les inondations. Je dois être sur le terrain.
Oui.
C'est mon rôle. Bah, on va voyager ensemble, vous et moi, en Gaspésie. D'un bout à un autre, c'est des heures et des heures de route. C'est pas des autoroutes.
Oui.
C'est pas les conditions idéales.
Je sais pas où vous allez, monsieur Desragis. Ben, là, on va en Gaspésie. Je suis déjà allé en
oui,
Gaspésie.
Oui,
mais les comtés sont considérés sur le nombre d'électeurs et non pas sur le nombre de kilomètres.
Ben, vous pouvez juste me laisser terminer ma logique et aucun problème. Je vous ai dit, on peut être d'accord comme on peut.
Mais vous
pas,
étiez 125 est... d'accord. Là.
Ben, et pour vous, le fait de que 125 sont d'accord, il y a un problème par
ben,
rapport à ça?
Pour une question comme celle-là, oui. Alors qu'on a un directeur général des élections qui est une institution indépendante, qui est là pour justement faire les choses dans le bon ordre, avec les bons chiffres. C'est un calcul actuaire mathématique et c'est pas plus compliqué que ça. Alors là, ben, vous m'expliquez que tout le monde était d'accord, là, tout le monde main dans la main.
Ben, c'est justement, c'est justement ce calcul mathématique qui ne fait aucun bon sens aujourd'hui. Dites aux gens qui habitent en Gaspésie qu'ils vont avoir leurs députés de temps en temps lieu d'être sur le terrain, parce que ne pas sous-estimer l'impact de la présence d'un député dans un territoire qui fait 3, 4, 5 fois un autre territoire.
C'est la réalité des régions éloignées. Parlez-moi du nord du Québec, M. Desragis. Il faudrait s'indécent en 6, 7 comtés. Là, c'est, je suis votre logique. Là.
Ongava, c'est un. Vous parlez de Ongava, c'est un comté qui est protégé aussi. C'est un comté avec une représentation.
C'est un comté dans lequel tous les comtés québécois pourraient rentrer. Là.
Ouais. Mais comme je vous ai dit au début, on peut ne pas partager le même constat. Mais sur le terrain, si les gens pensent que c'est facile d'assurer une représentativité régionale et surtout dans des régions éloignées, je ne partage pas la conclusion de la CRE, parce qu'il y a uniquement 3 personnes membres. Je pense qu'on doit s'inspirer du modèle ontarien aussi, où les gens prennent en considération le poids des électeurs, le nombre, parce que vous savez...
Parlons-en de l'Ontario, j'aime ça que vous m'ameniez sur l'Ontario. L'Ontario a presque le double de la population du Québec et ont moins de députés. Comment ça se fait?
Encore une fois, c'est le jour où on va avoir des règles qui vont définir très bien la représentativité, parce qu'au Québec... Au Québec, non, malheureusement, il y a un critère qui n'est pas inclus. Je vais vous dire quelque chose. Dans mon comté, est-ce que je dois servir les citoyens ou les résidents?
Vous devez servir les citoyens.
Erreur.
Ben non.
Tout résident. Non, mais c'est une erreur. Donc, vous allez me dire qu'à l'entrée de mon bureau, je demande la question, êtes-vous citoyen? Ça veut dire vous votez ou pas, pour qu'ils puissent...
Les citoyens de votre circonscription?
Les résidents. Les citoyens, ça veut dire qu'il a la citoyenneté canadienne. Ça veut dire qu'ils votent. Je dois servir les résidents. Et je veux vous dire qu'il y a des résidents qui ne sont pas citoyens, qui viennent d'arriver, qui sont là depuis 4, 5, 6 ans, qui ont des problèmes de logement. Dans le calcul de la CRE, ce n'est pas inclus le nombre de résidents. Donc, factuellement, on a 55 000 citoyens, mais je n'ai pas 55 000 citoyens. J'ai 80 000, 70 000 résidents. Des 10 000 et des 20 000. J'inclus les étudiants étrangers ou pas? Qui vivent des problèmes avec la RAMQ. Un cas que j'ai présentement, étudiant étranger, qui a ramené sa conjointe, un chercheur en intelligence artificielle, sa femme a un enjeu avec la RAMQ. Et il est enceinte.
Oui.
Et il ne sera pas pris en charge. Je lui dis, écoutez, la CRE ne vous prend pas en considération, je ne peux pas vous répondre à votre question, vous habitez mon comté. C'est le cas à Sherbrooke, la même chose, à Gatineau, avec la présence d'étudiants. On sert les résidents, pas uniquement les citoyens. Oui. Et c'est là où je vous ai dit, parce que c'est un dossier où j'étais porte-parole, les critères qui guident la CRE, qui est le comité qui gérait un peu les comtés, on doit les revoir. Et on laisse la CRE jouer son rôle. Ça, c'est vrai, ils doivent jouer leur rôle. On ne va pas s'ingérer dans le...
Il y a quand même un commissaire du DGE qui a démissionné là, par honneur. Là. Ça vous parle pas du tout, ça?
Non, je trouve ça dommage. Je respecte sa décision. Mais encore une fois, vous avez très bien dit, vous avez mis le doigt sur le bobo. Ce n'est pas uniquement de la mathématique. Je vous ai partagé mon quotidien. Vous êtes les bienvenus.
Je poursuis. Là. Donc, le grand comté du nord du Québec devrait être scindé en 7 comtés, puis rajouter 6 députés pour être sûr de couvrir tous les résidents officiel ou non, dans tous les comtés. Et je vous rappelle qu'en Ontario, une population presque 2 fois plus élevée qu'au Québec et il y a moins de députés qu'au Québec. Donc, si vous me dites que tout ça est logique, j'ai de la misère à embarquer dans votre histoire beaucoup.
Non, mais aucun problème. Je vous ai dit, vous venez passer une journée avec moi, vous allez voir c'est quoi la différence entre les problèmes des résidents et les problèmes des citoyens. 1, 2, par rapport à la géographie et la superficie, il y a des moyens que le bureau de l'Assemblée nationale offre avec l'ouverture de 3 autres ou 4 autres bureaux, ça dépend des circonscriptions, mais encore une fois, comparant des pommes avec des pommes, la situation géographique, la superficie, l'étendue de la superficie, c'est quelque chose à inclure dans le calcul mathématique que malheureusement était le leitmotiv de ce comité, et rajouter qu'au Québec, il y a aussi des vagues d'immigration, il y a des résidents qui ne sont pas inclus dans le calcul, parce que le calcul que le DGEQ prend en considération, c'est le nombre de citoyens. C'est sur ça qu'il se base pour dire tel comté doit être divisé, tel comté doit être absorbé par un autre corps.
Et on a toujours fonctionné comme ça, en tout cas depuis que le DGE a son autonomie, et moi je trouvais que c'était très bien comme ça. Mais c'est correct, c'est votre opinion, mais c'est la même que tous les députés, visiblement, tous les députés qui font partie de partis. Donc vous me dites, il n'y a aucun calcul politique là-dedans, là, zéro, il n'y a pas une virgule là-dedans dans cette décision-là qui prend en compte peut-être le fait qu'il y a des députés qui ne voulaient pas perdre leur comté, il y a des partis qui ne voulaient pas perdre leur mainmise sur certaines circonscriptions en mélangeant d'autres citoyens. Donc vous me dites, vous me jurez sur votre parole et votre honneur là, qu'il n'y a aucun de ces faits-là qui ont eu un effet dans votre réflexion.
Ben, écoutez, si je suis votre logique, c'est comme si les partis qui ont voté savent dorénavant qu'ils vont gagner ces comtés-là.
Monsieur, le sait, vous avez des sondages, là, vous savez très bien.
La CAQ, c'est partout. Donc, vous êtes en train de me dire, ceux qui se sont levés pour garder leurs comtés, ils vont les garder. Ils risquent de ne pas les garder. Mais encore une fois, moi, je vous partage une réalité terrain. Je n'ai aucun problème à passer une journée avec vous. Venez, vous allez probablement, parce que c'est facile de loin dire, les gens n'ont aucune idée, je ne généralise pas. Moi, là, je ne demande jamais la citoyenneté des gens avant qu'ils rentrent dans mon bureau. Je ne regarde même pas, je regarde une seule chose, s'ils habitent dans mon comté. Ça, c'est une réalité que malheureusement, le DGEQ n'a pas pris en considération. J'ai moi-même fait cette représentation auprès du DGEQ. Je lui ai dit, je lui ai partagé, et sa réponse était la suivante. Ben, il faut changer les critères. Lui, il fonctionne en fonction des critères. C'est ces critères qu'on n'a pas eu le temps de changer. C'est la réalité.
Mais vous saviez que ça s'en venait, puis là, je ne mets pas ça sur votre dos, vous êtes dans l'opposition. La CAQ savait que ça s'en venait. Pourquoi faire ça débarrasse en fin de mandat, la dernière semaine, alors que ça fait 4 ans qu'on sait que le redécoupage des circonscriptions s'en vient? C'est quand même particulier, là.
Sur ce point, je vous donne raison. On aurait dû, et le gouvernement aurait dû ouvrir le débat.
Parce que vous avez le droit de changer ces critères-là, là.
Et j'ai pas mal poussé à l'époque où j'étais porte-parole de revoir ces critères parce que quand j'ai proposé, j'ai parlé avec le DGEQ lors des consultations qu'il y a une réalité qu'il faut prendre en considération. Il a accusé réception, il a entendu nos arguments, mais ces critères, il fallait s'entendre parce que c'est un exercice transpartisan. Et ça, j'insiste sur ça, il faut que l'ensemble des partis s'entendent sur ces critères si on veut plus que selon ce que vous venez de dire, que les politiciens essayent de jouer dans la carte électorale, parce qu'il n'y a personne qui veut jouer dans la carte électorale. Ce qu'on veut, c'est juste s'assurer d'une bonne représentativité et que les critères soient des critères qui reflètent la réalité des élus au quotidien.
Monsieur Déragi, dernière petite question avant de se laisser. Paul Saint-Pierre Plamondon, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait mon lapsus sur Paul Saint-Pierre Plamondon. Paul Saint-Pierre Plamondon, ont posé des questions qui ont semblé déranger beaucoup, puis je peux le comprendre. Vous devez être, je suis sincère, vous devez être vraiment tanné d'être collé toujours avec l'étiquette de magouille, puis de corruption, puis de crime, puis de... Mais justement, étant donné que vous devez être vraiment tanné, vous n'avez pas envie de faire une espèce de ménage ultime au Parti libéral? Là, je sais que les enquêtes sont en cours pour votre dernière histoire avec M. Rodriguez, là, mais... Vous n'avez pas envie, des fois, de vider le sac au complet puis on recommence à neuf?
Ouais. Ben, écoutez, moi, je suis sur le terrain depuis que j'ai terminé la session. Les gens me parlent de la santé, me parlent de l'accès à la première ligne, me parlent de l'éducation, me parlent de l'état des finances publiques et surtout qu'ils n'arrivent plus à se payer ce qu'ils veulent et le panier d'épicerie qui coûte cher.
Ouais,
maintenant, ça, ce sont les priorités des Québécois. Ce n'est pas les priorités des Québécois, c'est pas uniquement PSPP.
Oui, je suis d'accord, mais ceux qu'on va mettre au pouvoir, c'est ça.
J'arrive. Premièrement, les enquêtes, je pense que vous faites confiance aux autorités, que ce soit l'UPAC ou le DGEQ.
L'UPAC, on peut se poser des questions.
Ben, j'aurais aimé qu'on se parle de Mme Fréchette, des mégawatts et le fait qu'il a lancé l'UPAC pour enquêter sur ma source, mais invitez-moi probablement une prochaine fois.
Oui.
Mais par rapport à votre question, il y a des autorités qui enquêtent sur la course au leadership de M. Rodriguez. M. PSPP peut dire ce qu'il veut. Il pense ce qu'il veut, mais à un certain moment, quand on aspire à être chef d'État, parce que c'est ça qu'il souhaite. Il souhaite représenter l'État québécois, qui est un État fédéré. Je pense qu'il doit faire attention aux mots utilisés. Et quand je dis attention aux mots utilisés, parce que c'est l'image aussi du Québec à l'international. Expliquer aux gens qu'on a des partis politiques liés avec des organisations, D'ailleurs, ce n'est pas vrai.
Mais c'était sous forme de question quand même. Il faut juste le mentionner. Là. On a le droit de poser des questions.
Vous êtes un homme très intelligent. J'ai le droit aussi de poser des questions et vous ramener à un endroit que probablement, à la fin de l'entrevue, vous allez me détester.
Ah oui.
Et oui. Je peux vous poser des questions ou je peux vous faire très mal en ligne où les auditeurs maintenant nous écoutent et pas sûr que les gens vont m'aimer ou vont
mais
aimer
vous
ce
avez,
que je...
Mais vous devez quand même accepter votre passé. Tu sais, je veux dire, il faut vivre avec ce qui est arrivé avant au sein de votre parti.
Donc PSPP doit accepter aussi son passé.
Ah, absolument.
Doit accepter absolument. Qu'avec lui, sa députation, un député qui a un passé aussi. Donc, quand il parle, il ouvre la bouche, il doit s'attendre à aussi que d'autres parlent de ça. Mais entre vous et moi, est-ce qu'on sert les Québécois si on a ça, comme ce genre de discussion? Le Québec fait face à un défi de pression économique énorme, où les gens n'arrivent plus à se payer avec l'argent qu'ils gagnent, terminer le mois. C'est de ça que les gens aiment qu'on leur parle après avoir dilapidé l'argent public par ce gouvernement. Les gens veulent voir comment nous, le Parti libéral, Charles Millard, on va gouverner pour les 4 prochaines années. Donc, si M. PSPP pense que c'est comme ça qu'il va gérer l'État, je le laisse se gouverner en conséquence.
Et je dois rajouter quand même ceci. La dernière fois qu'on a eu un surplus budgétaire, c'était les libéraux qui étaient au pouvoir. Merci beaucoup, M. Déragi.
Et pas les péquistes.
Et pas la CAQ non plus.
On a hérité d'un budget déficitaire de la part du Parti québécois de Pauline Marois.
Absolument. Merci, M. Déragi. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci à vous.
Merci, bonjour. Au plaisir. Monsef Déragi, député du Parti libéral du Québec dans Néligan. On va revenir après la pause sur ce qui se passe à Montréal. On a réussi à trouver quelqu'un, un intervenant, M. André Gélinas, à qui on a déjà parlé une couple de fois, va venir nous faire le point sur ce qui se passe présentement à Montréal après la pause.
Ouellet, en direct.
En direct. On revient dans pas long.
Radio X.